Alors, si vous avez une Bible, vous pouvez tourner dans vos Bibles, dans Daniel 5. Si vous n'avez pas de Bible à votre disposition, les versets principaux vont être affichés. Vous allez pouvoir suivre la lecture des Écritures aussi, qui va être affichée à l'avant. Simplement pour introduire la lecture que Julie va nous faire, on avance dans le temps. On fait vraiment un saut dans le temps, d'accord? Pour nous, on ne voit pas la coupure. On passe de Daniel 4 à Daniel 5, boum, on est rendu là. En réalité, plusieurs décennies se sont passées. Le roi qu'on a décidé d'appeler affectueusement Nébu ici, Nébu est décédé depuis un bon petit bout. Quelques rois, sa descendance, se sont succédés sur le trône, des fois des règnes très, très courts. En fait, Daniel a maintenant plus de 80 ans, pour vous donner une idée, d'accord? Donc, Daniel est pas mal plus vieux. Et lorsqu'on arrive à ce moment-là dans l'histoire de Daniel, Daniel est tombé pas mal dans l'oubli. S'il avait les grâces par une intervention de Dieu, du roi Nébu, c'est pas le cas maintenant, d'accord? Et donc, il y a plus beaucoup de gens dans le royaume qui vont nécessairement le consulter. Et un nouveau roi apparaît qui est là. Ce qui est intéressant de savoir, ce personnage-là qui s'appelle Belshazzar, le nom que Nébu avait donné à Daniel, c'était quoi? Belshazzar. Et puis ce roi-là, qui est un descendant de Nébu, s'appelle Belshazzar. Et ce qui est intéressant de savoir, ce personnage-là, les historiens, les archéologues questionnaient beaucoup la validité de son existence. Est-ce que c'est un fait historique pendant des siècles? On ne trouvait aucune trace dans les fouilles archéologiques de ce personnage-là, de cet individu-là. Or, il y a environ un siècle de ça, on a trouvé justement trace de son existence dans une construction qui date de l'époque et on a pu comprendre qui il était. En fait, c'était probablement un régent. Si le livre de Daniel nous le présente comme un roi, c'est en fait un roi par délégation, fils d'un roi qui était à ce moment-là à l'extérieur de Babylone. Et Belshazzar, c'était son fils. On a trouvé des traces au sommet de cet immeuble-là, inscrit-là. Et donc, on a su qui était ce personnage-là. Son règne va être très court, d'accord? Pour ce matin, on va l'appeler Bel, ça va? Affectueusement, on va l'appeler Bel. Mais son règne va être très court. Et en fait, lorsqu'on arrive à ce moment-là de l'histoire, lui ne le sait pas. Il sait que ça s'en vient dans un déni total. Il sait que sa ville est menacée. L'Empire Mède et Perse va venir s'établir, va venir renverser ce roi-là et on va passer sous un nouvel empire, d'accord? Donc, on est à l'orée de ça au moment où on arrive dans Daniel 5. On va écouter ensemble la parole de Dieu.
Alors, le passage biblique de ce matin est tiré du livre Daniel au chapitre 5, édition, nouvelle édition de Genève, 1979. Daniel au chapitre 5. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands, au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père, Nebuchadnezzar, avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or et d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier, sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. » Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi, le roi Belshazzar fut très effrayé et il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. « Ô roi, vis éternellement, que tes paroles ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a, dans ton royaume, un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton père au roi, l'a établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur, de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé, et il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux, et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lisent cette écriture et m'en donnent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la troisième place dans le gouvernement du royaume. » Daniel répondit en présence du roi, « Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. » Au roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et laissait la vie à ceux qu'il voulait. Et il élevait ceux qu'il voulait et abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servi pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre, on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius, le Mède, s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans.
Merci, Julie. Si vous le permettez, on va aller dans un mot de prière ensemble. Éternel Dieu, on est assemblés ce matin pour célébrer ton nom. On est assemblés en Église pour élever le nom de Dieu, pour reconnaître que tu es Dieu, que tu règnes, Seigneur, sur le destin des hommes. Père, je te prie de venir saisir nos cœurs par la destinée de cet homme, de ce roi, de son attitude, de sa manière de considérer sa propre vie devant toi, de sa manière d'envisager son propre destin, Seigneur. Je te prie, Père, de nous inspirer aussi par Daniel, Seigneur, dans sa fidélité, dans sa persévérance à te servir humblement à travers des décennies, Seigneur. Et viens nous aider ce matin à peser dans la balance, Seigneur, le poids des choix que nous faisons avec notre vie. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Comme je l'ai mentionné, je crois, la semaine dernière, dans le livre de Daniel, à plusieurs reprises, il y a des manifestations surnaturelles qui interviennent et je pense un peu rapidement sur ça. J'en fais pas grand cas, comme si c'était quelque chose d'absolument extraordinaire. Dans un sens, oui et non. Il faut toujours garder à l'esprit, lorsque je lis les Écritures, moi je lis la Bible avec cette idée que Dieu existe. Et à ce moment-là, que Dieu fasse des interventions ponctuelles, occasionnelles, dans l'histoire des hommes, de manière surnaturelle. Pour moi, personnellement, il n'y a rien de troublant dans ça. Ce serait surprenant que jamais Dieu n'intervienne d'une telle manière, si je crois dans l'existence de Dieu. Et Daniel, certainement plus que la majorité des croyants, des chrétiens, à travers les siècles, va voir quelques interventions comme ça dans sa vie. Mais je trouve intéressant quand même juste de souligner que même dans le cas de Daniel, on ne parle pas du pain quotidien, là, d'accord? Ça ne fait pas partie de son daily news de voir Dieu qui écrit à travers une intervention surnaturelle. Comme je vous dis, on a sauté maintenant des décennies et on n'a aucun récit d'intervention particulière, d'accord? Maintenant, ce matin, je veux faire quelque chose à travers ce chapitre-là. Je veux adresser un thème qui est sous-jacent. D'accord? C'est pas un thème qui est au premier plan dans le livre de Daniel, mais c'est un thème qui est présent à travers tout le livre, puis c'est un thème qui nous concerne tous. J'espère bientôt l'étudier plus en profondeur avec vous. C'est toute la question de l'ambition. Toute la question de la quête de gloire qui a comme une aspiration profonde de l'être humain, c'est un des thèmes qui est là derrière, en arrière-plan, à travers tout le livre de Daniel. Est-ce qu'un chrétien peut avoir vraiment de l'ambition? Est-ce que la foi chrétienne, le christianisme, avec l'image qu'on s'en fait, est contradictoire ou en harmonie avec cette idée d'être très ambitieux? Est-ce que le christianisme et la quête de gloire, c'est une contradiction ou est-ce que ça va ensemble? On va essayer de répondre à cette question-là ce matin, d'accord? C'est une question très actuelle. En fait, c'est une question qui a toujours été actuelle pour les êtres humains parce que c'est quelque chose qui est toujours présent. Et ce matin, on va voir ensemble que le poids de la gloire est lourd à porter lorsqu'on le cherche, lorsqu'on cherche la gloire qui vient des hommes. Et c'est surtout une question de savoir où est-ce que je vais chercher cette gloire qui est tellement riche au cœur humain. Alors, premièrement, la soif de gloire. Je pense que, je vais le dire comme ça, là, de manière non réfléchie, spontanément, avec l'image qu'on peut avoir du christianisme, je pense que généralement, on doit se dire, un chrétien, ça ne cherche pas la gloire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'un chrétien, ça cherche la gloire? Je vais vous lire un passage dans Romains. On vient de terminer le livre de l'Épître aux Romains, dans le Nouveau Testament, tout ça. Dans Romains 2, versets 5 à 8, puis je vais avancer tout de suite dans le passage. Voici ce qui est écrit, c'est l'apôtre Paul qui écrit, et il dit, « Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle, c'est pas rien, à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. » Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ce passage-là en lisant. « Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. » Intéressant, hein? Moi, je ne voyais pas le chrétien comme quelqu'un qui dit « Je cherche la gloire et l'immortalité! » Ça ressemble plus à un personnage de Marvel Comics. Je vous parle toujours des Marvel Comics de ce temps-ci. Ça ressemble plus au méchant scientifique ou quelque chose comme ça, non? Et pourtant, Paul nous dit que Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui s'appliquent avec persévérance en faisant le bien à chercher quoi? L'honneur, la gloire et l'immortalité. Et donc, peut-être que la question, Peut-être que la question, c'est plutôt une question de où tu le cherches. Mais je crois que c'est une question super importante. Parce que moi, je suis très confortable avec des chrétiens qui sont très ambitieux. À mon avis, un chrétien devrait toujours chercher à exceller, toujours, au travail, n'importe où dans ce qu'il fait. C'est ma vision à moi du christianisme. Le chrétien est censé chercher à exceller. Pas à tout prix, pas pour tous les motifs du monde imaginables, mais c'est comme ça que je le vois. Et personnellement, je cherche la gloire. Personnellement, je cherche la gloire. Vous pouvez me citer là-dessus, vous pourrez dire, Yannick, c'est un pasteur hérétique, complètement perdu. Il l'a dit, tu sais, tout ça. Yannick, cherche la gloire, quittez l'Église. Yannick, je cherche la gloire. Parce que Paul me dit que Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui, en persévérant à faire le bien, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Alors peut-être que dans le fond, la question, c'est surtout, où est-ce que tu cherches la gloire? Et définitivement, Bel, notre roi de ce matin, parce que dans la vie de Daniel, les rois passent assez facilement et puis Daniel persiste et continue, subsiste. Bel cherche la gloire, non pas la gloire qui vient de Dieu, mais il cherche la gloire qui vient des hommes. Lorsqu'on le trouve à ce moment-là dans sa vie, comme j'ai mentionné, il est à, je ne sais pas là, quand est-ce que le gros power-wow a commencé. Des fois, ces fêtes-là pouvaient durer une semaine, deux semaines, trois semaines. Alors, je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé, mais il est comme dans une espèce de déni total. Un historien de l'époque dit que c'était raisonnable pour ce roi-là d'estimer que sa ville était totalement imprenable. D'accord? Un historien de l'époque qui raconte comment ça s'est fait, ce renversement-là, dit vraiment ça a été comme un coup où il y a eu un putsch, il y a eu une collaboration de l'intérieur parce qu'autrement la ville est imprenable. Et donc peut-être dans une espèce de déni total, je ne sais pas, Bel est sur un énorme party. Il est parti, écoutez, je veux dire, à notre mariage, il y avait beaucoup de monde, mais là, il y a 1000 personnes à son party. C'est un gros party de débauche. Parce qu'à un certain moment donné, il commence à en avoir tellement derrière la cravate que là, il commence à se dire, « Wow, écoute, on va passer à un autre niveau. On va aller chercher les coupes que mon ancêtre, en fait, il appelle son père, mais c'est quelques générations avant, Nébu avait pris dans le temple de Jérusalem et il décide de se payer la tête du Dieu des Juifs. C'est ça qu'il décide de faire à ce moment-là, parce qu'il décide de prendre les vases sacrés qui étaient consacrés au service de Dieu, les rentrer là, puis tout le monde, tous ses invités, ses femmes, ses concubines vont continuer à se saouler la gueule en buvant dans les coupes sacrées. Et donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de s'élever au-dessus de Dieu. Il décide de narguer le Dieu des Juifs, de les mépriser. Alors imaginez la scène. Dans le fond, cet homme-là ne vivait que pour les « Wow! Non, il n'a pas osé! Incroyable! » Lui, c'est ça qu'il voyait à la scène. Il dit « Écoutez, on va aller chercher ça. Il y a 1000 personnes. Le party a été cœurant. » Là, il voit ça. Les gens vont observer que ce sont les coupes sacrées. On va commencer à boire. Et là, on va être « Non, il n'osera pas faire ça. Aïe, man, il est malade! » Puis il vit juste pour ça. Pour que ces 1000 invités qui sont là disent « Il est malade! Il n'a pas fait ça! Ah, c'est pas ce qu'il a fait! C'est débile! » Ils vont raconter ça pendant des décennies, ce que ce roi-là a osé faire. Cet homme-là ne vit que pour les bravos, les hurrahs, les « wow, il est cool, il est hot » que les hommes peuvent lui donner. Seulement, cet homme-là ne cherche sa gloire. Écoutez, si je veux m'amuser à faire un peu de pop psycho, toute son identité, toute sa valeur personnelle repose dans le regard des autres et il a le privilège d'être très riche, donc il peut en avoir beaucoup de regards. Fait qu'il décide juste de, pouf, il y a une petite bulle qui pète dans le cerveau, puis il décide qu'il va faire un gros party avec les coupes du temple. Question pratique pour toi. Quel poids pèse dans ta valeur personnelle, les hurrahs, les bravos, t'es cool, des hommes autour de toi? Quel poids ça pèse, ça? Puis venez pas me faire croire que ça pèse aucun poids, je vous crois pas. Je pense même pas que c'est biblique comme idée. Mais quel poids ça pèse? Quelle importance ça occupe? Est-ce que dans un moment de folie, il t'arrive de faire des choses tellement pathétiques parce que là, tu as la possibilité de monter ta cote de popularité dans un instant, dans un party, faire le fou, puis là, tout d'un coup, « Wow! Il est malade! » Quel poids ça occupe? Le regard des hommes autour de toi sur ta vie, sur ta valeur personnelle, sur ton estime de toi. Quel poids ça occupe? Belle ne vivait que pour ça, simplement pour le regard que les gens pouvaient déposer sur lui. Ça va le conduire à faire des affaires absurdes. Ça va le conduire à blasphémer littéralement en décidant de narguer Dieu en pleine face. C'est Jésus qui dit dans l'Évangile de Jean, « Car ils amèrent la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. » Et on peut être tenté de croire ici qu'ils aimaient recevoir la gloire des hommes plutôt que chercher la gloire qu'on remet à Dieu. Laissez-moi vous lire un autre passage dans Jean. « Comment pouvez-vous croire? » Jésus s'adresse aux pharisiens ici. « Vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul. » Belle ne vivait que pour les applaudissements des hommes. Il ne cherchait pas l'approbation de Dieu. Il ne cherchait pas à marcher sous le regard de Dieu. Donc aujourd'hui, en ce moment, les choix que tu as faits dernièrement, cette semaine, comment tu t'es senti dans ta peau quand tu te regardais dans le miroir? Qu'est-ce qui détermine ta valeur? Le regard des hommes? Tu n'es pas dans une bonne période de ta vie, ça ne flash pas, tu n'as pas de l'air cool, donc tu es sans valeur. Qu'est-ce qui détermine ta valeur? Puis dans le fond, ce que Daniel, le livre de Daniel nous enseigne, c'est que la sagesse, l'intelligence est de chercher l'approbation, la reconnaissance, d'abord et avant tout de celui qui tient dans sa main le souffle de ta vie. Celui qui juge le destin, la destinée des hommes, celui qui compte les jours de ta vie et qui connaît déjà quand est-ce que ta vie s'arrête. Si vous êtes familier avec le Nouveau Testament, il y a toutes sortes d'enseignements de Jésus où on pense à cet homme qui avait accumulé des richesses et des richesses et des richesses. Puis Jésus nous dit, oui, mais il ne savait pas que cette nuit même, sa vie lui serait redemandée et il se présenterait devant Dieu. Ton poids dans la balance, le Dieu qui tient le souffle de ta vie entre ses mains. Quand on cherche dans le passage ce que Dieu reproche à Belle, dans le fond, il lui dit, tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. C'est vrai que lorsqu'on arrive au point où on est en train de narguer Dieu, là on peut dire vraiment, tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. Tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. On a une toile de Rembrandt, si on peut l'afficher, je crois qu'on a la diapo là. Rembrandt a bien illustré ça parce que pendant qu'il est en train de faire la fête, à un certain moment donné, il y a une vision et il voit une main qui n'est probablement pas la main de Dieu, c'est une main envoyée par Dieu. Comment Dieu fait ça, je ne sais pas, il nous expliquera ça. Et puis il voit ça apparaître, puis là il est complètement effrayé, complètement sidéré parce que jusqu'à cette seconde-là, Belle détermine sa valeur uniquement dans le regard que les hommes déposent sur lui. Il y a de l'argent, il y a de la richesse, il y a du pouvoir, il y a de l'autorité. Donc, il a une grande valeur. Et puis, Dieu intervient et Dieu vient le surprendre et Dieu vient lui dire, tout ça ne dit en rien sur ta destinée. Parce que tes richesses, tes biens, ton autorité, ton pouvoir ne dictent en rien ta destinée. En définitive, c'est moi qui tiens ta vie entre mes mains. Et quel poids pèses-tu lorsqu'on le considère comme ça? On lit dans Daniel 25 à 28, « Voici l'écriture qui a été tracée. » Puis Daniel va simplement l'interpréter, puis Dieu a un sens de la rhétorique incroyable. « Compter, compter, peser et diviser. » Et voici l'explication de ces mots. « Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. » Tu as été trouvé léger. Tout ce que tu as comme poids de gloire, d'honneur, d'autorité, de serviteur, de richesse, tout ça a été sous-pesé dans la balance de Dieu, puis tu es léger. sans grande valeur. Tu as été trouvé léger. Je me suis posé la question cette semaine. Ma vie à moi, devant Dieu, ce que je fais de ma vie, ce que je fais de mon temps, ce que je poursuis, ce qui occupe mon cœur quand mes pensées se mettent à partir. Vous savez, les pensées qu'on ne contrôle pas, là? Puis tout, tu te mets à rêver. C'est quoi mes rêves? Où est-ce que je m'en vais? Est-ce que je suis vraiment intérieurement? Si Dieu le pèse dans la balance, ça pèse combien? Est-ce que je suis trouvé léger? Est-ce que je suis trouvé léger? Ou est-ce que mon cœur, ma vie est dédiée à chercher la gloire qui vient de Dieu? Ce qui est fascinant avec Belle, c'est que Daniel va lui dire, va lui raconter l'histoire de Nébu. Et c'est pour ça que je voulais adresser ça un petit peu ce matin, parce qu'on a l'impression des fois que, on a l'impression souvent, je crois, que Dieu ne veut pas que les chrétiens cherchent la gloire, on ne doit pas être ambitieux, tout ça. Dans l'histoire de Nébu, il a été humilié, et après qu'il se soit humilié dans son cœur devant Dieu, qu'il ait reconnu Dieu, Dieu l'a élevé. Lui-même va raconter toute ma magnificence, et même au-delà de ce que je possédais avant, m'a été restauré. Intéressant, hein? Je ne suis pas en train de vous prêcher un évangile de la prospérité ici. Tu crois en Jésus, tu reconnais Dieu, ton compte de banque va se remplir. Pas vraiment, non, non, non. Le point que je veux souligner ici, c'est que Dieu n'en avait pas contre cette ambition chez Nébuchadnezzar. Il n'en avait pas contre cette quête de gloire chez Nébuchadnezzar. Il en avait contre le fait que Nébuchadnezzar cherchait sa gloire essentiellement de la part des hommes plutôt que de la part de Dieu. Il était rendu à un endroit où il s'enorgueillissait d'être maître de sa destinée au-dessus de Dieu lui-même. Et lorsqu'il s'est humilié, Dieu l'a restauré. Écoutez, je l'ai dit la semaine dernière, est-ce qu'on a une vraie conversion avec Nébuchadnezzar? C'est pas 100% clair cette affaire-là. Mettons, sa théologie n'est pas toute straight, t'es pas tout sur la ligne, tu sais. Mais tu termines l'histoire de Nébuchadnezzar, puis t'as un peu l'histoire de Job. Si vous êtes familier avec l'histoire de Job, un homme de Dieu, un homme craignant Dieu, qui a été mis à l'épreuve, qui a tout perdu, et à la fin, lorsqu'il reconnaît la souveraineté de Dieu, l'entière liberté que Dieu a de bénir ou de retirer des richesses aux hommes, le fait que Dieu est Dieu et que j'ai pas constamment à questionner les choix qu'il fait sur ma vie, mais reconnaître simplement qu'il est sage, saint, juste, bon, il est Dieu, c'est lui qui m'a donné la vie après tout. Lorsque Job va confesser ça, Job va être restauré, comme Nébuchadnezzar est restauré. Puis avec Nébuchadnezzar, c'est pas clair que j'ai une théologie toute sur la coche. Mais ça, c'est l'histoire de Dieu avec les hommes. Dieu bénit pas à la mesure de notre perfection théologique. Dieu ne bénit pas à la mesure de notre rectitude, de notre droiture. Dieu attend pas qu'on soit sur la coche. C'est pas ça qu'il y a dans le livre de Daniel. Ce qu'il y a dans le livre de Daniel, c'est cette décision de Nébuchadnezzar de s'humilier devant Dieu et de reconnaître que c'est Dieu, après tout, à la fin de la journée, qui tient dans sa vie chaque jour de ma vie. C'est lui qui tient le souffle de ma vie. Et je devrais commencer chaque journée en l'honorant, en l'élevant, en le reconnaissant. C'est pour ça que je vous disais la semaine dernière, une belle manière de comprendre notre relation à Dieu dans le livre de Daniel et une belle manière souvent d'annoncer l'Évangile aussi, c'est sous ce principe de la royauté. Est-ce que je choisis d'être le petit roi de ma vie, prétendant être au-dessus de Dieu maître de ma destinée? Ou est-ce que je prends ma couronne, mon royaume personnel, tout ce que je pourrais accomplir, toutes mes ambitions, toute ma quête d'accomplissement, et je viens premièrement la déposer aux pieds de Dieu en disant, si moi tu m'as créé comme une créature merveilleuse qui peut faire des choses incroyables, toi tu es le créateur. Toi tu es maître de ma destinée. C'est premièrement sous ton regard que je veux marcher. Et donc chaque jour de ma vie, ce que je vais déposer comme œuvre, ce que je vais faire, ce que je vais décider de faire, va être déposé dans la balance de ton jugement à toi, pas du jugement des hommes. tous les choix que je fais, les décisions que je prends, l'orientation de ma vie, le bien que je décide de faire ou le mal que je vais décider d'emprunter, toutes ces choses, je le fais pas pour le regard des hommes, pour les « wow », les « ouh », les « bravo », « wow », il est cool » que les hommes peuvent me donner. C'est pour ton regard que je le fais, je le dépose dans la balance qui est devant toi, ô Dieu. Est-ce que tu es à cet endroit-là dans ta vie? Où tu as pris ta vie et tu as dit, Dieu, c'est génial, j'ai des années devant moi, je vais pouvoir faire un million de choses, je rêve, j'ambitionne de faire un paquet d'affaires. Mais d'abord et avant tout, je veux reconnaître que tu es Dieu. Et à la fin de cette vie, celui par qui je veux être approuvé, c'est toi, Seigneur. Celui devant qui je vais me présenter, c'est toi, Seigneur. Est-ce que ce choix-là a été fait dans ta vie? Puis vous savez, on fait le choix une fois dans notre vie pour la vie, puis on fait le choix chaque matin lorsqu'on se lève. Après l'avoir fait une fois, on le refait tous les jours. Parce que le cœur humain est comme ça, hein? On dérive. À un certain moment donné, on est malheureux parce que le regard des hommes n'est pas assez encourageant, puis on commence à courir après des choses ici. Je l'ai déjà dit à quelques reprises à l'église, John Wesley, un des hommes qui a vu les plus grands réveils spirituels à travers toute l'histoire de l'humanité, a été appelé à prêcher à une nation qui luttait énormément avec l'ivrognerie, les hommes étaient totalement irresponsables. Puis il a commencé à annoncer l'Évangile, puis à prêcher l'Évangile, puis à prêcher l'Évangile, puis à prêcher l'Évangile. Puis les gens ont commencé à se convertir, à s'humilier devant Dieu par milliers. Et donc, ils ont commencé à implanter des églises. Les églises se remplissaient, c'était extraordinaire. 20 ans plus tard, John Wesley, qui avait vu ces choses-là extraordinaires, a fait un constat qui était triste, par contre. Il dit, ces gens que l'Évangile a aidé à sortir de l'ivrognerie, de la paresse, de la médiocrité, ont pris ces beaux principes pour se construire un royaume sur la terre. Et ils voyaient de l'impiété s'installer dans le cœur de ceux qui avaient vu leur vie réformée par l'Évangile, transformée par l'Évangile, mais qui revenaient à ces passions-là. Pour ça, je vous dis, c'est une décision que je prends une fois dans ma vie, de prendre la couronne de mon petit royaume, d'aller la déposer au pied du roi des rois, puis de dire, c'est toi qui es le roi, c'est toi que je veux servir. Ce que je construirai de bon, ce sera parce que je l'ai puisé en toi, parce que j'ai appris à marcher selon tes principes. Pas selon les principes de ce monde, selon tes principes, ô Dieu. Mais une fois que j'ai pris cette décision-là, je dois la reprendre quotidiennement. Je ne peux pas m'asseoir sur mes lauriers. Puis penser que parce que j'ai enlevé ma couronne une fois, c'est fait pour la vie. Je dois répéter ça à tous les jours de ma vie pour me rappeler. Belle dont la vie a été pesée puis a été trouvée tellement légère. Ce que tu as fait cette semaine, ce qui a occupé ton cœur, tes pensées, ce que tu poursuis, j'espère avec beaucoup d'ambition. J'espère avec des rêves énormes. Combien ça pèse dans la balance devant Dieu? Ça peut peser très, très lourd. Ça peut peser très lourd. Ça peut être très beau. Mais ça demande de passer par là où Nébu est passé. Par l'humilité. Ça doit passer par cet endroit où je reconnais que c'est Dieu qui est Dieu premièrement. Parce que dans ce marché-là divin où Dieu estime la valeur des choses, le cours de l'humilité est beaucoup plus élevé que le cours de l'orgueil. Beaucoup plus élevé. C'est vraiment intéressant, on arrive dans ce chapitre-là, puis on a Daniel, cet homme humble, qui ne cherchait pas la gloire qui vient des hommes, mais la gloire qui vient de Dieu. Comme je vous l'ai dit, un homme qui était tombé passablement dans l'oubli. Une reine, j'ai l'impression que c'est la reine mère, d'accord? La reine qui intervient, je n'ai pas l'impression que c'est une des épouses parce qu'elles étaient au party. J'ai l'impression que c'est la reine mère, peut-être qui a connu le Dieu que Nebuchadnezzar a reconnu comme le Dieu suprême. Et cette personne-là se souvient de Daniel. Et c'est intéressant de voir Daniel revenir à l'avant-scène. Lui qui ne cherchait pas la gloire qui vient des hommes, mais la gloire qui vient de Dieu. Parce que sur cet homme-là, il y avait un esprit particulier qui était là. Daniel avait pris plaisir à servir dans l'ombre parce qu'il cherchait la gloire qui vient de Dieu. Daniel avait pris plaisir à accepter que lorsque tu es en train de servir Dieu, il y a des moments où les hommes vont le voir, il y a des moments où les hommes ne le verront pas. C'était secondaire pour lui. Chaque matin, il se levait, on va le voir encore la semaine prochaine, il se levait en considérant sa vie devant Dieu. Il est rendu à plus de 80 ans. Il est passé dans l'oubli. Il faut que cette reine-là, qui selon moi est vieille, entre et intervienne parce que là, ça courait partout dans le royaume que le roi qui était sous comme une botte est en train de paniquer parce qu'aucun de ses mages, de ses devins, de ses sages pouvait interpréter ce qui était écrit là sur le mur. Et donc, cette vieille reine-là entre au milieu de toute cette débauche-là où tout le monde est à moitié paf puis un peu partout en train de paniquer. Et puis elle vient puis elle dit un peu, attends un peu, calme-toi le pompon là. Il y a un homme que tu as oublié, sur qui un esprit particulier est là. Vous voyez que sa théologie, elle, n'est pas comme tout bien découpée. L'esprit des dieux. Ce n'est pas 100% clair. Il y a des traductions bibliques qui vont le rendre par l'esprit de Dieu, d'autres par l'esprit des dieux. Alors, on ne sait pas exactement où est-ce qu'elle est rendue dans ce qu'elle croit, mais elle reconnaissait en Daniel quelque chose qu'il n'y avait chez aucun autre des sages, des devins, des magiciens. Elle reconnaissait un homme qui était connecté ailleurs. Et puis, elle le rappelle à son souvenir et puis elle dit, « Fais-le venir, il va pouvoir t'aider. » Daniel 5, 11, « Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins. » On avait déjà commencé à souligner dans les dernières semaines que même si Nebuchadnezzar consultait Daniel, son réflexe premier, c'était comme dernier recours. On va consulter les autres, si on est mal pris, on consultera cela. En général, c'est pas cool le message qu'il a à nous donner. Alors, on ne sait pas comment la vie de Nebuchadnezzar s'est terminée. Peut-être que Daniel est resté en honneur jusqu'à la fin de sa vie. Mais disons que les rois qui ont suivi n'étaient peut-être pas tellement tentés s'ils n'étaient pas prêts à reconnaître Dieu, l'Éternel, Yahvé, comme le Dieu suprême. Ils n'étaient peut-être pas tentés à ce moment-là de garder Daniel près d'eux. Et donc, Daniel est tombé dans l'oubli. Et pourtant, lorsqu'on regarde le récit de Bel, qui avait tout le pouvoir, l'autorité, tout ça, puis lorsqu'on regarde le récit de le portrait qui est dépeint de Daniel, celui qui a toute la gloire et l'honneur, c'est Daniel. C'est pour ça que je voulais adresser cette question-là avec vous. Dans notre vision du christianisme, on peut avoir une image qu'un chrétien ne doit pas chercher la gloire. Un chrétien ne doit pas être ambitieux. C'est pas ça. On a été créé avec une soif de gloire parce qu'on a été créé à l'image de Dieu. On a été créé pour apprécier, admirer les choses qui sont grandes, merveilleuses, grandioses. On a été créé pour aspirer à ces grandes choses-là. Chez celui qui n'a aucune ambition, on va reconnaître généralement une dépression. Mais où est-ce que je cherche cette gloire-là? De qui est-ce que je cherche cette approbation-là? Et donc, on a ce petit monsieur-là âgé qui marchait probablement plus courbé qu'à 30 ans, qui revient à l'avant-scène. Les années ont passé. Les propositions du roi... Écoutez, je vais juste vous relire le verset, c'est trop fort. Le roi offrait des présents, tout ça. Puis dans Daniel 5, 17, on lit « Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'Écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. » Daniel n'est pas là. Il n'a pas besoin des cadeaux du roi. Il n'a pas besoin des présents. Il n'a pas besoin d'être élevé. Daniel voit des rois passer dans sa vie comme on voit les saisons passer. Parce que Daniel, petit train va loin, se lève chaque matin, rouvre les rouleaux, je ne sais pas, les lits, s'en va dans la prière, remet ça à Dieu. Un peu plus tard dans la journée, Daniel s'en va encore dans la prière, puis il dit, voici ce que j'ai pu faire ce matin pour pour te glorifier, des décisions à prendre, des interventions à faire, faire le bien, te glorifier, t'honorer, te remercier. Puis encore un peu plus tard, en terminant la journée, s'en va encore dans la prière. Puis Daniel fait ça pendant des années, pendant des décennies. Et on voit ce personnage-là intervenir à la fin de l'histoire avec un poids de gloire. C'est clair dans la trame de l'histoire qui, devant Dieu, n'est pas trouvé léger. Si Dieu avait eu à se prononcer sur Daniel ici, il n'aurait pas dit « Pesez, pesez, tu as été trouvé léger. » Parce que tout le livre de Daniel nous montre très bien la gloire de cet homme-là, qui était la gloire de celui ou de celle qui ne cherche pas le regard et l'approbation des hommes, mais premièrement celui de Dieu. La gloire de celui qui, par la persévérance à faire le bien, cherche l'honneur, la gloire et l'immortalité, comme nous dit Paul dans Romains. Ce qui est fascinant avec Daniel, c'est que non seulement Daniel a la faveur de Dieu, mais Daniel a l'appui de Dieu. Daniel est accompagné par Dieu. Il a l'Esprit de Dieu en lui, nous dit le passage. Et à plusieurs reprises, quand je lis Daniel, il y a tellement des beaux parallèles qu'on voit apparaître avec Christ. Parce que quelques 600 ans plus tard, Jésus-Christ va venir. Et voici ce que Ésaïe dit. Je vais vous lire le passage. Le prophète Ésaïe, annonçant la venue du Messie, annonçant la venue du roi des rois, écrit ceci dans Ésaïe 11, versets 2 à 4. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Écoutez bien ceci, vous allez avoir l'impression que c'est Daniel. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux. Il frappera la terre et de sa parole, comme d'une verge et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Cet esprit qui est sur Daniel, que les rois qui l'ont côtoyé reconnaissaient en lui un esprit de sagesse, cet esprit-là va venir sur Jésus-Christ quelques 600 ans plus tard. Et les gens qui vont côtoyer Jésus, certains d'entre eux vont le détester pour cette raison-là. Parce que ce sont des hommes qui cherchent la gloire qui vient des hommes. Ce sont des hommes qui ne cherchent pas la gloire qui vient de Dieu. Et lorsqu'ils côtoient Jésus, ils ne peuvent faire autrement que l'haïr et le détester. Mais ceux qui cherchent la gloire qui vient de Dieu, ceux qui cherchent à honorer Dieu, vont reconnaître en Jésus l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que j'ai intitulé cette partie-là l'Esprit du roi. Voyez-vous, l'Esprit qui va venir sur le roi des rois est déjà sur Daniel. L'apôtre Paul nous dit dans une des lettres à Timothée en parlant de l'Esprit de Dieu, il dit « Ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. » En lisant le Nouveau Testament, on apprend que cet esprit-là vient et habite en tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ. Et donc, je crois, comme chrétien, qu'on est appelé à chercher l'honneur et la gloire qui vient de Dieu. Je crois comme chrétien qu'on a en nous un esprit de force, d'amour et de sagesse qui nous permet de briller. Certaines personnes vont haïr ça, vont détester ça, l'apprécieront pas. Parce qu'on cherche à faire le bien, parce qu'on n'endosse pas le mal, parce qu'on prend des décisions impopulaires lorsque c'est la bonne décision à prendre. Parce qu'au travail, on ne suit pas toujours le flow quand le flow va dans la mauvaise direction. Parce qu'on ose dire des choses lorsqu'elles doivent être dites. Mais certaines personnes vont reconnaître cela. Jésus nous dit même que certaines personnes vont glorifier notre Père qui est dans les cieux en voyant nos bonnes œuvres. Est-ce que ce n'est pas l'histoire de Daniel? Il y a beaucoup de place pour les chrétiens pour être très ambitieux. Pour chercher l'excellence, chercher à bien faire. Mais chacune de nos décisions qu'on prend sont faites sous le regard de Dieu. Pour certains, ça va être une offense, parce qu'on va être à contre-courant. Pour d'autres, ça va être un parfum de Christ. Ça va les attirer, ils vont poser des questions. Ils vont vouloir connaître cet esprit qu'il y a là en nous. Ils vont pouvoir découvrir Jésus-Christ. Alors, soyez ambitieux. Soyez ambitieux. Cherchez la gloire. Foncez, cherchez toujours à exceller. Mais toujours premièrement, en déposant chaque jour votre couronne au pied du roi des rois, du Seigneur, en avançant par son esprit, cherchant à faire le bien. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je ne crois pas que tu nous as appelés à ne faire que de petites choses, Seigneur. Je ne crois pas, Seigneur, que tu nous as appelés à ne pas chercher la gloire. Seigneur, je cherche et j'attends impatiemment le jour où je me présenterai devant toi, avec toutes mes imperfections, avec tous ces moments où je me suis planté, caché, couvert par ta grâce, Seigneur. Mais parce qu'un jour, je me suis humilié devant toi et j'ai reconnu que tu es le roi des rois, parce qu'un jour, j'ai déposé la couronne de ma vie à tes pieds, Seigneur. Je cherche ce jour, Seigneur, où tu me diras, « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Seigneur, viens travailler nos cœurs afin que nous prenions plaisir à chercher la gloire qui vient de toi. Viens sonder nos cœurs, Seigneur, pour nous montrer tous ces moments où ce qu'on cherche, c'est la gloire qui vient des hommes, plutôt que chercher ton approbation, Seigneur. Viens, Père, et parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs afin qu'on vienne à toi. Et ceux d'entre nous qui n'ont pas encore retiré leur propre couronne de gloire personnelle, qu'ils viennent la déposer à tes pieds, Seigneur. Et qu'ils viennent élever le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. C'est dans son précieux nom que nous prions. Amen.